fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet. Bonjour à tous, bonjour Michel Valmer et bonjour à Camille Daboville qui nous accompagne encore aujourd'hui.
Bonjour Françoise, bonjour Camille, bonjour Théo et bon courage pour nous prendre au son.
Merci à vous, chers auditeurs de JTFM, d'être de nouveau à l'écoute de notre émission Fantômes et Merveilles, émission sous-titrée aujourd'hui Vertiges et Poissons, ou plus exactement Entretien d'un philosophe avec la maréchale de, car nous allons avoir le grand plaisir de poursuivre pour vous en direct l'interprétation de ce texte hallucinant de Diderot qui n'a pas pris une seule ride compte tenu de l'actualité.
Eh oui, l'actualité, la question de Dieu, dans une adaptation de vous, Françoise, rappelons-le, et de Gerhard Stenger. Allez.
Alors c'est parti pour la suite de l'entretien de Diderot avec la maréchale de.
Sur la question de Dieu.
Sur la question de Dieu.
Oui, c'est très important.
Ce qui est toujours d'actualité.
On y va. Madame la maréchale, une honnête femme, une chrétienne, une dévote. Cet exemple et 100 000 autres de la même espèce prouvent que l'usage est plus fort que la religion. Quelle influence réelle faut-il donc accorder à la religion sur les mœurs ? Presque aucune, et tant mieux.
Comment cela ? Tant mieux ?
Eh oui, madame la maréchale. Si 20 000 Parisiens se mettaient tout à coup à vivre conformément aux articles de l'Évangile, qu'arriverait-il ?
Il y aurait quelques gorges beaucoup plus couvertes.
Étant d'hommes frustrés, que nos hôpitaux ne désempliraient pas. Oh. Madame la maréchale, il y a dans les livres sacrés deux morales. L'une générale, commune à toutes les nations, à tous les cultes, et qu'on suit à peu près. Une autre propre à chaque nation, à chaque culte, à laquelle on croit, qu'on prêche dans les églises, qu'on préconise dans les maisons, et qu'on ne suit point du tout.
Et d'où vient cette bizarrerie ?
De ce qu'il est impossible d'assujettir un peuple à une règle qui ne convient qu'à des eunuques. Il en est des religions comme des institutions monastiques qui toutes se relâchent avec le temps. Ce sont des folies qui ne peuvent tenir contre l'impulsion constante de la nature qui nous ramène sous sa loi. Madame la maréchale, la tentation est trop proche. L'enfer est trop loin. N'attendez rien d'un système d'opinion bizarre qui n'en impose qu'aux enfants, qui encourage au crime par la commodité des expiations, qui envoie le coupable demander pardon à Dieu de l'injure faite à l'homme, et qui avilit l'ordre des devoirs naturels et moraux en le subordonnant à un ordre de devoirs chimérique.
Je ne vous comprends pas.
Je m'explique. Ah, mais il me semble que voilà monsieur le maréchal qui rentre fort à propos pour m'empêcher de dire quelques sottises.
Je n'entends venir aucun carrosse. Approchez-vous. Approchez-vous. Et dites votre sottise. Je ne l'entendrai pas. Je me suis habituée à n'entendre que ce qu'il me plaît.
Et monsieur Diderot s'approcha de madame pour lui dire tout bas quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Aussi, je m'esquivais discrètement.
Que me chuchotez-vous là ? Dites-le donc tout haut. Dites-le donc tout haut. Je vous jure que je serai seule à vous entendre et ne le répéterai à quiconque.
Bien. Madame la maréchale, demandez à votre curé de ces deux crimes pisser dans un vase sacré ou noircir la réputation d'une femme honnête. Quelle est le plus atroce ?
Je ne sais que vous répondre.
Votre curé absoudra froidement le calomniateur, tandis qu'il frémira d'horreur devant le blasphème. Il criera au sacrilège et la loi civile le punira par le feu, madame la maréchale. Rappelez-vous le sort du pauvre chevalier de Lollabar. Selon la législation en vigueur en France, il est infiniment plus grave de pisser dans un vase sacré que de calomnier une honnête femme.
Je connais plus d'une femme pieuse et honnête qui se ferait un scrupule de manger gras le vendredi et qui... Mais j'ai moi aussi une petite sottise à vous dire à l'oreille.
Bon, madame la maréchale, votre mari ne va sans doute pas tarder à revenir. Et comme il faut absolument que je m'entretienne avec lui aujourd'hui d'une affaire pressante, je...
Attendez-moi quelques instants. Je reviens tout de suite.
Madame la maréchale demanda à monsieur Diderot de lui tourner le dos. Galamment, celui-ci s'exécuta. Madame la maréchale sortit de son bain et se retira dans sa chambre pour se vêtir. Monsieur Diderot attendit patiemment. Tout à coup, il sursauta. Il crut entendre le bruit d'une voiture qui s'approchait de la maison. Mais le bruit diminua et la voiture passa. Cependant, monsieur Diderot n'était pas tout à fait à son aise. Monsieur le maréchal pouvait revenir d'un moment à l'autre et le trouver ici, dans la chambre de sa femme. Mais madame la maréchale ne se fit pas attendre plus longtemps. Elle revint promptement, s'approcha de monsieur Diderot et lui chuchota sa sottise à l'oreille. Celui-ci s'écarta d'elle en souriant. Puis, tout en reculant adroitement vers la porte, il lui dit avec une tendresse et une admiration non feintes
« Monsieur le maréchal est un mari comblé. » Et le mariage qui fait le malheur de tant d'autres a fait votre bonheur et celui de monsieur le maréchal. Vous avez très bien fait de vous marier tous deux.
Madame la maréchale, tentant de l'empêcher de sortir, le rejoignit et lui dit, non sans fierté,
« Dieu ne me reprochera pas d'aimer mon mari le vendredi, n'est-ce pas ?»«
Ah, Dieu vous commande d'aimer votre mari tous les jours de la semaine, madame. »
Ce n'est pas que monsieur Diderot ne désira pas pousser la chose plus loin, mais à nouveau, il crut entendre un bruit de chevaux. Il sortit précipitamment de la chambre. Une fois arrivé dans l'entrée, il eut juste le temps d'apercevoir la voiture de monsieur le maréchal qui repartait. Il se lança à la poursuite du carrosse en criant. Il courut longtemps, rien n'y fit. Dépité, il fit demi-tour, reprit son souffle, et comme il fallait absolument qu'il vît monsieur le maréchal ce jour même, il se résolut à revenir l'attendre chez madame. Celle-ci s'apprêtait à ouvrir son livre de prières, comme elle le faisait tous les matins.
« Mais que se passe-t-il ? Vous n'avez point vu mon mari ? » ?»«
Je n'ai pas eu le temps. Il était déjà reparti. Madame la maréchale, il s'agit de 460 000 livres. Oui, je me suis engagé auprès de la grande Catherine de Russie à racheter la collection de tableaux appartenant à votre famille. À ce prix, 460 000 livres. Mettez-vous à ma place, non mais 460 000 livres, ni plus ni moins, dans les plus brefs délais. Ah, et puis vous ne connaissez pas les colères de l'impératrice. Elles peuvent être terribles.
Calmez-vous, monsieur Diderot. Je vous promets d'intervenir auprès du maréchal. Puisqu'enfin, cette fameuse collection m'appartient. N'est-il pas vrai?
Soit.
Monsieur Diderot, en vérité, je suis bien aise que vous soyez revenu converser avec moi.
Hein?
Car voyez-vous, tout à l'heure, vous ne m'avez pas persuadé.
Ah.
Monsieur Diderot soupira. Certes, il trouvait que madame était bien obstinée. Oh, je savais qu'elle ne lâcherait pas comme ça la conversation. Madame est têtue, et je suis bien placée pour le savoir.
Monsieur Diderot,
oui?
Vous n'avez donc pas, à ce que je vois, la manie du prosélytisme.
Je permets à chacun de penser à sa manière, pourvu qu'on me laisse penser à la mienne. Ceux qui sont faits pour se délivrer des préjugés n'ont guère besoin qu'on les catéchise.
Si je vous entends bien, vous affirmez que les athées ne sont pas tous des hommes de sac et de cordes, et que la religion ne rend pas nécessairement l'homme meilleur?
La religion vous a peut-être rendu, vous, meilleur que vous ne l'étiez à votre naissance, mais il est également vrai qu'elle en a rendu d'autres bien plus méchants qu'ils ne l'étaient dans le ventre de leur mère.
Croyez-vous que l'homme puisse passer de la religion?
Non, tant qu'il restera ignorant et peureux.
Eh bien, religion pour religion, autant la nôtre qu'une autre.
Mais je ne le pense pas.
Parlez-moi vrai. Ne vous répugne-t-il point à n'être plus rien après votre mort?
J'aimerais mieux exister. Bien que je ne sache pas pourquoi, Dieu, qui a pu me rendre malheureux sans raison, ne s'en amuserait pas deux fois. Nul ne voudrait mourir, nul ne voudrait renaître, a-t-il dit ce grand poète.
Et pourquoi nous ôter cet espoir d'exister après la mort, à nous qui y croyons?
Je n'ai point cet espoir, mais je ne l'ôte à personne. Si l'on peut croire qu'on verra quand on n'aura plus Dieu, qu'on entendra quand on n'aura plus d'oreilles, qu'on pensera quand on n'aura plus de tête, qu'on aimera quand on n'aura plus de cœur, qu'on sentira quand on n'aura plus de sens, qu'on existera quand on ne sera nulle part et qu'on sera quelque chose sans étendue, sans lieu, j'y consens.
Ce monde-ci, qu'est-ce qu'il a fait?
Je vous le demande.
C'est Dieu.
Mais qu'est-ce que Dieu?
Un esprit.
Et si un esprit fait de la matière, pourquoi la matière ne ferait-elle pas un esprit?
Et pourquoi le ferait-elle?
C'est que je lui envoie faire tous les jours. Ah! Croyez-vous que les bêtes aient une âme?
Certainement, je le crois.
Et pourriez-vous me dire ce que devient, par exemple, l'âme du serpent du Pérou pendant qu'il se dessèche surpendu dans une cheminée exposée à la fumée pendant un ou deux ans de suite?
Que son âme devienne ce qu'elle voudra? Qu'est-ce que cela me fait?
C'est que madame la maréchale ne sait pas que ce serpent du Pérou, enfumé, desséché, se ranime, exposé à la vapeur chaude, qu'il ressuscite et renaît.
Je n'en crois rien.
C'est pourtant un savant, c'est Bouguer qui l'assure.
Mais qui est ce monsieur Bouguer?
Un compagnon de la Condamine qui fait partie de son expédition scientifique au Pérou et qui m'a raconté cette histoire de serpent.
Votre savant a menti.
Et s'il avait dit vrai?
fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.